Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 9 octobre. Aujourd'hui, on commence avec du soutien au tissu associatif. C'est ce que réclame en tout cas le mouvement « Ça ne tient plus » qui aura lieu donc dans deux jours, le 11 octobre. Une grande journée de mobilisation nationale pour les associations, le tissu associatif. On peut lire ceci sur la page et sur le communiqué de ce qui nous a été envoyé à nous aussi en tant qu'association, puisque Radio Escapade est une radio associative. On y apprend que les associations, c'est 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés et de salariés EES et 67 millions de Françaises et de Français qui sont concernés par leurs actions, c'est-à-dire tous. Les associations agissent dans tous les territoires, toutes les sphères de la vie quotidienne. Solidarité, éducation populaire, culture, sport, santé, environnement, accompagnement des plus fragiles, les associations sont au cœur de nos vies, au cœur de notre société, en France et à l'international. Elles donnent une voix à celles et ceux qui n'en ont pas, créent du lien, permettent l'engagement citoyen et rendent possible l'impossible. Et pourtant, continue donc ce communiqué, nous traversons une crise sans précédent, avec en premier lieu la baisse des financements, la précarité croissante et l'augmentation des besoins, et enfin la dégradation des conditions et les risques de disparition, tout bonnement à moyenne échelle. C'est dans ce cadre-là donc que cette mobilisation est prévue sur toute la France, avec un rassemblement à Paris, place de la République, donc ce samedi 11 octobre de 14h à 17h, et une carte interactive. Si vous suivez le lien et le site « Ça ne tient plus », une carte interactive vous permettra de rejoindre, si vous le souhaitez, une des plus de 300 actions qui seront prévues sur le territoire. Une carte des mobilisations multi-contributives vous permet donc de trouver ou d'organiser une action sur votre territoire. Et dans la foulée donc, de cette grande journée de mobilisation, j'en profite pour faire un petit focus sur justement des associations qui œuvrent au niveau local, qui sont elles-mêmes impactées et concernées par cette réalité quotidienne de la précarisation, en tout cas des moyens de travail. Tout d'abord avec ce rendez-vous, la semaine prochaine, jeudi 16 octobre, c'est à Sauve qu'aura lieu à la salle des fêtes, projection débat gratuite d'un film. Ce film, c'est un documentaire, il s'appelle « Anaïs s'en va en guerre » de Marion Gervais, qui parle de la réalité d'une agricultrice sur sa ferme. Et c'est proposé par Impact 30 et le conseil départemental du Gard. Le film sera d'ailleurs suivi d'un débat animé par le collectif Impact 30 en présence de paysannes et paysans du territoire, puisqu'il est bien question de cette activité, notamment de celle de l'installation des jeunes. Impact 30, donc comme le Gard, c'est un collectif associatif qui regroupe l'ADARG. L'ADARG, c'est l'Association départementale pour le développement de l'emploi agricole et rural du Gard. Je vous en reparle dans pas longtemps. Donc l'ADARG, la Fédération départementale des CIVAM du Gard, Solidarité Paysan 30 et Terre de Liens Languedoc-Roussillon. Tous ces collectifs donc sont regroupés dans Impact 30. Un collectif rassemblé autour de valeurs partagées pour développer une agroécologie paysanne ancrée dans les territoires, créatrice de liens sociaux et fondée sur l'autonomie des acteurs. Notre approche de l'agriculture est ouverte aux préoccupations de la société, alimentation, environnement, éducation, solidarité, précarité. Ça, c'est pour donc Impact 30 et on devrait normalement, d'ici la semaine prochaine, avoir une interview avec une animatrice de ce réseau pour reparler du rendez-vous et puis comprendre un petit peu mieux ce qui se fait dans ce genre de structure et les enjeux et les dangers qui pèsent sur elle. L'ADARG, je vous le disais, donc c'est l'Association départementale pour le développement de l'emploi agricole et rural du Gard. Elle œuvre depuis 25 ans à la diffusion et à la mise en place de pratiques agricoles vertueuses, en suivant cela la charte de l'agriculture paysanne et ses valeurs fortes. Et l'ADARG est en difficulté financière et lance donc un appel aux dons que nous relayons ici sur les ondes. La DEARG va soutenir l'installation et la transmission des fermes et des exploitations agricoles. Elles ont un budget annuel de 250 000 euros et le financement est assuré essentiellement par des subventions publiques, notamment via la DRAF, la région Occitanie, le département du Gard ou l'agglomération d'Alès. Pour certaines actions, d'ailleurs, une contribution est demandée aux porteuses et porteurs de projets, mais ils souhaitent que les accompagnements soient accessibles à toutes les bourses, puisque la DEARG donc accompagne des projets agricoles. Et ils sont en grande difficulté financière, c'est pour cette raison qu'ils lancent un appel à souscription, puisque la situation économique s'est dégradée, notamment suite à la baisse de certains financements, et pourtant, rappelle-t-il, les sollicitations, elles, ne font qu'augmenter. Des porteuses et porteurs de projets, des territoires qui s'engagent dans des projets autour de l'alimentation ou de l'agriculture, ils n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes, donc ils adaptent leur modèle économique à ces nouvelles réalités en cherchant de nouveaux financements, avec comme objectif celui de rebondir et d'embaucher pour répondre aux envies de développement de l'agriculture paysanne. C'est donc ce qui explique, eh bien, pour passer le cap difficile de 2025 au niveau finance et se lancer l'année prochaine avec un nouvel élan pour développer leurs activités, que la DEARG a besoin de vous. Donc des dons sont disponibles sur leur page. Et à quoi serviront ces dons? Il rappelle, eh bien, à continuer d'accompagner les 180 personnes qui passent la porte de la DEARG chaque année. Que ça soit d'ailleurs des paysans, des paysannes qui souhaitent transmettre leur ferme, des gens qui montent un nouveau projet ou des collectifs qui veulent améliorer leur fonctionnement. Et à noter aussi, nous avons été informés que l'association La Fourmi et la Cigale de Saint-Hippolyte-du-Fort, donc l'association qui gère la Biocoop de Saint-Hippolyte-du-Fort, eh bien soutient aussi financièrement la DEARG. Ils ont donc eux aussi fait un versement pour l'association. D'ailleurs, demain, vendredi 10 octobre, à 10h30 du matin, à La Fourmi et la Cigale, sera remis de manière solennelle ce chèque de soutien donc à la DEARG. Et puis, ils expliqueront, il y aura un petit laïus certainement pour expliquer aussi les valeurs et les vertus de ces deux associations. On part dans les infos justement des grands chantiers, ce fameux chantier de la LGV Lyon-Turin. Une nouvelle alerte agricole est lancée contre ce chantier pharaonique. On ne peut pas défendre l'agriculture et le Lyon-Turin, il faut choisir. C'est ce qui explique dans les colonnes de Bastamag, une des signataires de cette lettre ouverte qui a été rédigée à la fin de ce mois de septembre par presque 280 personnes qui travaillent dans 180 exploitations agricoles différentes, donc des exploitants agricoles, tous situés à proximité du chantier de cette nouvelle ligne à grande vitesse devant relier la France et l'Italie à travers donc les Alpes. Cette lettre rappelle que le monde agricole traverse une crise profonde et il et elle demandent donc aux chambres d'agriculture, aux syndicats agricoles, aux collectivités territoriales et aux élus de tout mettre en œuvre pour arrêter ce projet. Les signataires de la lettre ont pour ce faire d'ailleurs rencontré un par un, une par une, au cours de l'été, une vingtaine des agriculteurs à l'initiative de la mobilisation. Ce projet pharaonique de ligne à grande vitesse avec tous ces tunnels constitue à leurs yeux un vrai problème pour le monde agricole. Et ils se réfèrent à leurs collègues de la vallée de la Maurienne, où les tunneliers, donc les machines qui creusent des tunnels, avalent des kilomètres de montagne depuis plus de 20 ans. Et ces collègues, justement, agriculteurs, témoignent d'emprise majeure des chantiers sur les terres agricoles, bien plus importantes que ce qui avait été annoncé et prévu initialement. Ce chantier de ligne à grande vitesse a été imaginé à la fin des années 80. C'est un chantier, donc une ligne qui doit relier la France et l'Italie, enfin il y en a déjà. Et il a commencé au début des années 2000 avec le creusement d'un tunnel en reliant les deux pays. Pour le moment, seulement 18 km sur les 57 que devrait compter ce tunnel transfrontalier ont été creusés. Du côté de la France, le projet vient de passer un cap. C'était en décembre dernier avec le choix par le gouvernement Barnier du tracé qui doit relier justement Lyon à ce tunnel. Le scénario qui a été retenu pour ce tracé, c'est le scénario grand gabarit. Il prévoit 7 nouveaux tunnels, notamment sous les massifs montagneux de la Chartreuse et de Belledonne, des tunnels de 24 et 19 km. À côté de cela, 6 viaducs et plusieurs dizaines d'autres ouvrages, des ponts, des murs de soutènement, etc., sont prévus aussi. Ces travaux pourraient commencer dès 2028 pour une mise en service de la ligne au plus tôt en 2045. Alors les arguments contre cet immense chantier de 270 km de long, hein, dont 200 de tunnels, eh bien les arguments sont martelés depuis 30 ans de part et d'autre de la frontière franco-italienne, à savoir que les prévisions d'augmentation du trafic ferroviaire et du trafic de marchandises ont été surestimées. Ils mettent en avant aussi qu'une ligne ferroviaire existe déjà et qu'elle est pour l'instant largement sous-utilisée. Elle pourrait en effet normalement absorber les deux tiers du trafic de marchandises qui sature aujourd'hui la vallée de la Maurienne sur les routes. Il souligne aussi que le coût financier de ce projet ne cesse d'augmenter, on en est à plus de 11 milliards d'euros, et que le coût écologique de celui-ci est monstrueux. Rien qu'un exemple, les émissions de CO2 de ce chantier ne seraient compensées au mieux que 50 ans après la mise en service de la ligne. Nous avons fait le choix de demander des signatures de manière manuscrite, expliquent les organisateurs, les signataires de cette lettre ouverte. Même si c'est plus long, disent-ils, car cela implique de la discussion, du contact et nous permet de créer du lien entre les différentes fermes proches du tracé et ce, quel que soit leur syndicat. Les initiateurs de cette démarche sont inquiets de ce qui se passe chez leurs voisins italiens, où ils rappellent donc qu'au niveau agricole, ce sont 1500 hectares qui pourraient être avalés par le chantier de raccordement au tunnel transfrontalier. Les signataires s'alarment aussi des impacts sur la ressource en eau, de plus en plus précieuse à mesure que le changement climatique étreint leur quotidien professionnel. Et il rappelle que de nombreux captages d'eau potable sont menacés dans les massifs de Belledonne et de la Chartreuse et de la chaîne de l'Épine, car le tracé de cette ligne passe non loin. Normalement, il est interdit de forer ou de creuser à proximité de ces captages, mais pour le creusement du tunnel frontalier, encore une fois, des dérogations ont été accordées par la préfecture. C'était en octobre 2024.
L'eau pure à une terre saine, de ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
C'était un brave paysan suisse dans les années 70 que vous venez d'entendre. Les problèmes étaient déjà les mêmes. On part en Asie du Sud-Est où justement le changement climatique continue de faire des ravages avec ses conséquences, notamment à travers des épisodes météorologiques intenses. C'est le typhon Matmo, c'est son nom, qui a provoqué des inondations d'ampleur dans le nord du Vietnam. C'était hier, mercredi 8 octobre. Le bilan est d'au moins 8 morts et 5 personnes portées disparues pour le moment. Des crues et des glissements de terrain ont submergé des zones habitées, laissant des milliers de personnes isolées, sans électricité ni ressources de première nécessité. Le niveau de la rivière Cao, qui traverse la ville de Thai Nguyen à 80 km d'Hanoï, a dépassé de 1 mètre le précédent record de 28 mètres, qui était atteint en 2024, à l'époque où c'était le typhon Yagi qui avait dévasté ce pays. Plusieurs communes ont dû être évacuées, l'armée reste mobilisée pour acheminer de l'eau potable, des vivres et du matériel de secours. Matmo a aussi frappé la Chine en entraînant des déplacements massifs de population. Ce sont en effet 300 000 personnes qui ont été évacuées vers le sud du pays pour échapper aux inondations et aux glissements de terrain provoqués par ces fortes pluies. Cet épisode s'ajoute donc à une longue série de typhons récents. Il y a eu Bualoi il y a une semaine, qui avait fait plus de 50 victimes au Vietnam. Avec le changement climatique, les cyclones deviennent plus imprévisibles et puissants, et les scientifiques peinent à anticiper avec précision justement l'évolution de leur intensité ou de leur trajectoire. Ces événements météorologiques extrêmes creusent encore les inégalités environnementales. Ainsi, témoignait Franck Marba, un jeune Philippin rescapé du super typhon Rai en décembre 2024, qui milite pour que les victimes des catastrophes climatiques obtiennent justice. Il pointe la responsabilité des grandes entreprises fossiles dans l'aggravation des désastres. Et ce jeune homme s'était d'ailleurs associé à l'époque à la plainte de l'association Bloom et d'autres victimes contre l'entreprise Total Energy. Actuellement au stade de consultation publique, un projet de décret qui prépare l'affaiblissement du statut de protection du loup en France a recueilli plus de 1500 avis. Depuis le lancement de la consultation qui a eu lieu le 24 septembre dernier, un grand nombre de participants se disent défavorables à ce texte, notamment certaines associations de protection des animaux, comme l'ASPAS ou Ferus, qui ont appelé à s'opposer à ce projet de décret pour protéger le loup. Le projet est consultable sur le site du ministère de la Transition écologique jusqu'à 14 octobre. Vous pouvez donc vous aussi donner votre avis. Et ce texte entend modifier un passage du Code de l'environnement relatif aux espèces protégées. Ça devrait s'appliquer au 1er janvier 2026. Une réécriture qui permettrait de changer le statut du loup et de définir les règles de sa gestion dans la réglementation française, selon le ministère. Ce décret fait suite au reclassement du loup au niveau européen, dont je vous avais déjà parlé ici. le loup a été reclassé d'espèce strictement protégée à espèce protégée, tout simplement. Ça, c'était le 3 décembre 2024. La décision a été confirmée en juin par une directive européenne Habitat qui a élargi les conditions pour pouvoir tuer le loup. En septembre, la France a décidé de faciliter aussi les tirs de défense pour les éleveurs. Si cette consultation publique est obligatoire pour des décisions affectant l'environnement, le ministère de la Transition écologique n'est en revanche pas tenu de prendre compte les avis exprimés. On termine avec un dossier scientifique et santé, publié dans le dernier numéro du magazine L'Âge de Fer. On y apprend que l'électrosensibilité a enfin été démontrée de manière scientifique, c'est-à-dire de manière moléculaire et par une équipe de recherche de l'INSERM. L'électrosensibilité n'est donc pas un problème psychosomatique. Il y a bien une réalité moléculaire derrière les déclarations de ces dizaines de personnes, centaines de personnes qui expliquent souffrir des ondes électromagnétiques. C'est l'unité U1296 de l'INSERM qui vient de le démontrer à travers une étude qui a été financée par l'ANSES et publiée dans la revue à comité de lecture international Journal of Molecular Science, le journal international des sciences moléculaires. C'est donc la seule unité en France à être entièrement consacrée à la radiobiologie généraliste. Donc c'est une unité de l'INSERM qui étudie l'effet des radiations ionisantes, quels que soient les scénarios d'exposition, que ce soit dans un cadre militaire, civil, professionnel, accidentel, médicaux, environnementaux. Ce sont donc les experts des radiations. Elle travaille par exemple avec le service des santé des armées ou le Centre national des études spatiales, des organismes de santé publique qui étudient par exemple, c'est un des grands sujets de recherche du moment, les effets de la radiothérapie sur les individus. Et donc cette unité est maintenant à l'origine d'une découverte essentielle dans le domaine, à savoir l'importance de la protéine ATM dans la réponse individuelle aux radiations ionisantes. Alors on fait un petit peu de... On va essayer de faire un petit peu de vulgarisation en suivant cet article. Qu'est-ce que cette protéine ATM qu'on a tous en nous ? Donc chacune de nos cellules, vous le savez, comporte dans son noyau de l'ADN qui code pour justement toutes les fonctions de notre corps. 3 mètres d'ADN, hein, si on le déroulait, avec les fameuses molécules ATCG. Eh bien, il arrive que ces brins d'ADN se cassent, notamment quand ils sont irradiés. C'est ce qui fait la dangerosité des radiations. Puisque quand on est irradié, l'eau qui est contenue dans nos cellules se décompose et produit de l'eau oxygénée. Et c'est cette eau oxygénée qui va casser la molécule d'ADN et donc abîmer notre code génétique et produire ensuite des dégâts sur le corps. Eh bien, cette protéine ATM est présente dans l'organisme de manière naturelle et c'est à ce moment-là qu'elle va intervenir. Elle est normalement au repos dans la cellule. Elle est collée sous forme d'un dimère, donc deux molécules collées entre elles. Quand l'eau oxygénée, justement, apparaît suite aux radiations, ATM se divise en deux et donc en fonction de la quantité de radiation à laquelle on est soumis, eh bien, cette protéine va aller lancer une réparation de l'ADN. Elle signale les cassures à d'autres protéines qui vont activer la réparation de l'ADN, donc un bon système d'autoréparation qui fait que nos cellules restent stables sur toute la durée de vie de nos organismes. C'est donc assez bien fichu. Sauf que ces protéines ATM ont une efficacité qui varie selon les individus. 3 groupes d'individus ont été identifiés au sein de la population. Le groupe 1, c'est environ 3/4 de la population, on les appelle les radio-résistants. Et bien chez eux, justement, cette protéine fonctionne parfaitement, toutes les cassures sont reconnues, réparées, etc. De l'autre côté, il y a le groupe 3, qui est une partie très très minoritaire dans la population. Chez ces personnes, ce sont souvent des enfants atteints de maladies rares, et bien cette protéine ATM n'agit pas à cause d'une mutation. Il n'y a donc pas de réparation du tout de l'ADN et la mort va intervenir très souvent malheureusement avant l'âge adulte. Et enfin, entre ces deux extrêmes, il y a le groupe 2, qui représente entre 5 à 20% de la population. Ce sont les personnes radiosensibles, chez qui justement toutes ces cassures d'ADN ne seront pas détectées. Et il en reste donc qui passent à travers les grilles de ce système de réparation. Si elles sont mal réparées, on peut être par exemple prédisposé à avoir des cancers. Ou si elles sont tolérées, ça peut en déclencher une mort lente de la cellule. Et là, on est plutôt sur des profils de gens qui ont des prédispositions aux maladies dégénératives. Et enfin, si les cassures ne sont pas réparées, on est dans un cas de toxicité cellulaire. Alors, toutes ces personnes, donc ces 5 à 20% de la population, montrent ou peuvent montrer une certaine prédisposition justement aux effets secondaires des radiothérapies, les irradiations au rayon X. L'étude qui a révélé tout ça, elle date de 2016, hein, et elle a donc révolutionné ce domaine des recherches. Et une des nouvelles applications de ces découvertes vient de tomber, même si principalement, je vous le disais, le champ d'action, c'est de contrôler l'usage des radiothérapies pour les personnes atteintes de cancer. Alors, quand cette unité de recherche s'est lancée dans l'étude justement sur les cas très particuliers des personnes électrosensibles, eh bien, ils ont décidé d'appliquer strictement le même protocole, hein, avec des cellules de personnes qui se déclarent électrosensibles. Eh bien, bingo, sur les 26 personnes qui se sont présentées, les 26 étaient radiosensibles également. Ça signifie donc, si vous suivez, que si tous les radiosensibles ne sont pas électrosensibles, en revanche, l'inverse, lui, marche à 100%. Tous les électrosensibles font partie de cette petite partie de la population qui a justement une fragilité vis-à-vis des irradiations. Et donc, en termes de reconnaissance, c'est un point énorme pour les électrosensibles, car ça les fait rentrer dans un groupe moléculaire pathologique déjà défini et très documenté en radiobiologie. Ce qui permet donc aussi de ne pas passer des fois pour un fou, tout simplement, parce que on va dire que la prise en compte de ces cas par la médecine reste très aléatoire. Enfin, l'analyse très poussée des données de ces patients a notamment permis de faire ressortir deux sortes d'électrosensibilité. Deux groupes encore, là encore. Dans un premier groupe, les personnes qui sont interrogées expriment des douleurs permanentes fortes, mais assez peu sensibles en fonction des ondes ou pas. Ces gens, on les a classés dans un groupe qui s'appelle HBLR, fort bruit de fond et faiblement répondant. Donc eux, ils sont très sensibles à toutes les irradiations, mais pas spécialement quand ils sont à côté, plus un endroit ou un autre. L'autre groupe, lui, c'est l'inverse. Il souffre peu lorsqu'il est faiblement exposé, mais beaucoup dès que le niveau d'onde augmente. Eux, ce sont les LBHR, Low Background Highly Responsive. Donc voilà, déjà deux types d'électrosensibles qui se dessinent avec ces études qui ne font que commencer. Et bien évidemment, les risques liés à ces formes d'électrosensibilité sont bien réels, hein. Principalement un risque de vieillissement prématuré des cellules et donc un risque de maladie neurodégénérative pour le groupe des HBLR et un risque de cancer, lui, accru chez les personnes qui sont très sensibles à des sources proches. La démonstration étant donc désormais faite que l'électrosensibilité est une réelle pathologie et qu'elle correspond à une définition moléculaire, eh bien, le chef de cette unité, Nicolas Forêt, entend désormais poursuivre les études et il explique la prochaine étape logique sera d'exposer les cellules à des ondes électromagnétiques afin de cerner justement plus spécifiquement les signes cliniques et peut-être de commencer à envisager des traitements préventifs. Il explique qu'aujourd'hui, on peut faire disparaître certains symptômes d'une personne radiosensible. On doit donc pouvoir trouver aussi pour l'électrosensibilité. Voilà une bonne nouvelle donc sur le champ médical. Reste à espérer que les solutions proposées ne passeront pas elles aussi par des ondes. Je pense que les électrosensibles apprécieraient mal l'ironie ou peut-être même avec des implants connectés puisque ça se fait de plus en plus. Et c'est le sujet d'ailleurs qu'Héloïse a aujourd'hui choisi de décortiquer pour nous. Bonjour Héloïse.
Bonjour. Et oui, j'ai choisi ce sujet parce qu'il y a deux jours à Toronto, deux patients ont reçu un implant cérébral conçu par la société Neuralink fondée par Elon Musk. Deux petites puces insérées dans la matière grise et avec elles un pas de plus vers un monde où la pensée pourrait contrôler la machine. Ce n'est plus une annonce futuriste ni même une promesse technologique, c'est une réalité. Une réalité bien vivante, branchée, connectée et qui pose plus que jamais la question de ce que nous faisons de l'humain. Depuis toujours, l'homme rêve de se dépasser. De la roue à la fusée, du silex au smartphone, chaque invention a repoussé un peu plus les frontières de notre corps et de notre esprit. Mais à force de vouloir s'améliorer, ne sommes-nous pas en train de nous oublier ? L'humain augmenté, ce n'est plus un fantasme de science-fiction. C'est une réalité qui s'invente aujourd'hui dans le silence feutré des laboratoires du monde entier. En janvier dernier, Neuralink avait déjà implanté pour la première fois une puce électronique dans le cerveau d'un homme paralysé. Quelques semaines plus tard, il contrôlait un ordinateur par la pensée. En Suisse, des chercheurs ont réussi à faire marcher un patient paraplégique grâce à un pont neuronal électronique, un dispositif qui relie directement le cerveau à la moelle épinière. Et dans plusieurs hôpitaux européens, on teste désormais des prothèses bioniques capables de restituer le sens du toucher, de la chaleur ou même de la douleur. Le rêve de réparer le corps est devenu réalité. Mais sur cette frontière fragile entre le soin et la surenchère, une autre promesse émerge, celle de l'humain amélioré. Des implants pour augmenter la mémoire, des exosquelettes pour décupler la force, des médicaments pour ralentir le vieillissement. Le projet transhumaniste se déploie discrètement, porté par les géants du numérique et de la biotechnologie. Google, par exemple, a investi dans Calico, une entreprise qui ambitionne de vaincre la mort en comprenant les mécanismes du vieillissement. D'autres startups en Californie promettent de télécharger la conscience ou de recréer le cerveau humain grâce à l'intelligence artificielle. À chaque fois, la même question, jusqu'où peut-on transformer l'humain sans le dénaturer ? Car l'histoire l'a déjà montré, l'idée de créer un homme nouveau n'a rien de neuf. Des mythes anciens à Frankenstein, des totalitarismes du XXe siècle aux fantasmes de la Silicon Valley, la tentation est la même, défier la condition humaine. Nietzsche disait « L'homme est quelque chose qui doit être dépassé », mais le dépassement d'aujourd'hui n'a plus rien de spirituel, il est technologique. Et ce glissement-là change tout. Le corps est devenu une interface. On y implante des puces, on y greffe des rétines, on connecte le cerveau à la machine. Nos données biologiques deviennent des lignes de code, nos émotions des algorithmes, nos gestes des signaux électriques. Henri Atlan, biologiste et philosophe, le résumait ainsi « Nous avons quitté la nature sans savoir encore ce qu'est l'artifice. Entre la chair et le silicium, l'humain devient l'outil et la machine modèle. On mesure nos pas, nos calories, notre sommeil, on s'entraîne à mieux vivre avec des applications qui, paradoxalement, nous empêchent d'écouter nos sensations. Le progrès technique, parfois, tourne en rond. Il veut nous améliorer, mais à force, il nous rend dépendants. Et si la promesse d'un être augmenté cachait surtout une peur ancienne, celle de notre finitude. Le rêve d'immortalité n'est pas nouveau, mais supprimer la mort, la maladie, la vieillesse, c'est aussi supprimer l'urgence de vivre. C'est parce que nous savons que tout s'arrête un jour, que nous créons, que nous aimons, que nous choisissons. Hans Jonas parlait d'un « pouvoir sans sagesse », une technique qui avance plus vite que notre conscience morale. Jacques Ellul, lui, voyait dans la technologie une force devenue autonome, un système qui s'auto-entretient et finit par décider à notre place. Et il suffit de regarder la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle s'impose dans nos métiers, nos décisions, nos imaginaires, pour comprendre que ce n'est plus une théorie. Alors oui, ces innovations sont fascinantes, mais elles exigent qu'on se pose une question simple. Que voulons-nous vraiment améliorer ? Le corps ou l'humain ? Les neurosciences rappellent que la pensée ne se résume pas au calcul, qu'il y a dans nos émotions, nos intuitions, nos failles, une forme d'intelligence qu'aucune machine ne pourra jamais coder. Ce n'est pas parce que tout est possible qu'il faut tout faire, écrivait Hans Jonas. Et peut-être qu'au lieu de rêver de nous augmenter, nous devrions apprendre à habiter pleinement ce que nous sommes. Car la vraie question n'est pas jusqu'où pouvons-nous aller, mais pourquoi voulons-nous y aller ? Et surtout, que restera-t-il de l'humain quand, à Toronto ou ailleurs, il aura accepté qu'une puce pense un peu plus à sa place ?
Merci beaucoup Héloïse. Tu parlais de finitude, c'est aussi bientôt la fin de ton stage chez nous à Radio Escapade.
Et oui.
Tu vas retrouver les bancs de l'école.
Ouais, c'est ça.
Bon, on te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup pour ces petits moments de réflexion. Et je ne peux pas résister à l'envie de te faire écouter un extrait d'un film qu'on a regardé nous très jeunes et qui parlait déjà de tout ça. Peut-être tu vas reconnaître.
L'éco-dépisteur 209 est un robot policier entièrement autonome. Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien de l'ordre, mais ce n'est qu'un commencement.
Veuillez lâcher votre arme. Vous êtes en infraction caractérisée de l'article 113, chapitre 9 du Code pénal.
Je vois que Héloïse n'a pas la référence. C'était un humain augmenté à l'époque qui était devenu donc un policier robot. On l'appelait Robocop.
Ah,
Arnold Schwarzenegger dans le rôle. Voilà. Et ça se finissait pas très bien pour les inventeurs. Merci beaucoup. On arrête là pour les nouvelles du monde pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve très vite.
À bientôt.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas. Mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué.
Les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.